France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur l'inconscient. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration de l'inconscient à travers les rêves. Nous n'en avons pas fini avec les rêves, vous vous en doutez. Interpréter un rêve, c'est se donner la chance d'accéder au grand secret que nous sommes pour nous-mêmes. Il serait dommage de ne pas nous avancer plus avant dans ce territoire du rêve. Celui que Freud a baptisé, vous vous en souvenez, la voie royale d'accès à l'inconscient. Quand on songe à la rapidité avec laquelle il s'efface de notre mémoire. Ce n'est vraiment pas la première chose qu'on aurait pensé à dire du rêve, une voie royale. Il y a quelque chose dans le rêve qui nous échappe non seulement au moment où nous le faisons, mais au moment où nous tentons de nous en souvenir. Nous avons quelquefois le sentiment furtif d'avoir rêvé de quelque chose qui est presque là et qui pourtant ne veut pas revenir. Mais quelquefois, nous prononçons un mot dans la journée, nous entendons une phrase, nous voyons un lieu ou un paysage et hop, comme en un miracle, le rêve revient. C'est cela la voie royale. Une interprétation du rêve qui nous conduit soudainement et d'un coup d'un seul au cœur de l'inconscient, sans détour. Alors, je voudrais aujourd'hui continuer d'explorer les rêves et le motif de leur disparition. Qu'est-ce qui disparaît ? Mais aussi, qu'est-ce qui apparaît ? Car finalement, le rêve est aussi le lieu d'apparition. Un peu comme dans ces tableaux de la Renaissance italienne, qui font apparaître, sous les yeux de femmes en extase, une figure de l'au-delà. Sauf que dans un rêve, ce sont des figures du monde d'en bas qui apparaissent. Si je ne parviens pas à émouvoir ceux d'en haut, je mettrai en mouvement ceux d'en bas. C'est l'épitaphe de Virgile que Freud a placée à l'entrée de son interprétation des rêves. Comme pour nous faire entendre que l'interprétation des rêves réveille ceux d'en bas, les morts. Je vous propose de vous emmener dans ce monde que les anciens appelaient les enfers. Ce monde qui est aussi celui des fantômes, des apparitions et des disparitions. À la suite de mon récit, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées suite à l'écoute du podcast déjà en ligne sur le site de l'inconscient sur franceinter.fr. Notez que vous pouvez nous laisser vos questions par note vocale sur le site, mais aussi sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Descendons donc ensemble dans ce monde d'en bas. On y va. N'ayez pas peur.
L'inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
Quelquefois, le cinéma nous fait voir ce que la psychanalyse nous fait traverser. Vous souvenez-vous de cette jeune femme ?
Nous ne nous sommes pas présentés, je crois. Je m'appelle Iris Anderson.
Iris, qui voyage dans un train, seule, assise dans un compartiment avec d'autres voyageurs. Elle fait la connaissance d'une vieille dame, assise juste en face d'elle, avec qui elle échange quelques mots. Il faut dire qu'elle est sympathique, cette vieille dame. Iris s'assoupit un moment, bercée par le rythme du train. Elle se plonge dans le sommeil, s'y perd, s'absente. Ah oui, j'oubliais de vous dire qu'elle s'est pris un pot de fleurs sur le crâne juste avant de monter dans le train. Accident ? Ou geste intentionnel ? On ne le sait pas encore. Mais Iris est un peu sonnée. Groggy, comme on dit. Quand Iris ouvre à nouveau les yeux, elle s'étonne de ne plus voir la vieille dame avec qui elle a eu une conversation juste avant de s'endormir.
Si j'étais vous, j'essaierais de dormir un peu. Après cela, vous serez tout à fait d'attaque. Il y a un acrostiche très excitant dans les Yetz et Maman et j'ai bien l'intention d'essayer de le démêler pendant que vous vous reposez.
Il y avait bien quelqu'un en face d'elle. Et pfft, elle s'est comme évaporée, disparue. Elle demande aux autres voyageurs, mais avez-vous vu la vieille dame avec qui je conversais ? Savez-vous où elle est allée ? S'est-elle rendue au wagon-restaurant ? Mais non, personne ne sait rien. Et non seulement personne ne l'a vue, mais tout le monde regarde Iris étrangement et lui répond « Il n'y a jamais eu de vieille dame, vous délirez ?»
Avez-vous vu mon ami ?
Non.
La dame anglaise, où est-elle ?
Il n'y a pas eu de dame anglaise ici.
Quoi ?
Il n'y a pas eu de dame anglaise ici.
Mais si, voyons, elle était là, dans ce coin. Vous lui avez même parlé, elle était assise à côté de vous. Enfin, c'est ridicule, elle m'a emmenée au wagon au restaurant et est revenue ici avec moi.
Vous êtes partie et revenue toute seule.
Iris ne comprend pas. Elle n'en démord pas, elle a la certitude qu'il y avait une vieille dame, puisqu'elles se sont parlé toutes les deux et qu'elles ont même été prendre un thé ensemble au wagon-restaurant. Et en même temps, Iris ne comprend pas pourquoi elle est la seule à avoir vu la vieille dame. Est-ce qu'ils sont tous de mèche ? Est-ce qu'ils veulent tous lui faire croire qu'elle est folle ? Ou est-ce elle qui... Oh, ce mal de tête qui revient. Peut-être qu'elle est dans un rêve dont elle ne parvient pas à se réveiller. Vous avez reconnu, sans doute, le film d'Alfred Hitchcock. Une femme disparaît. Lady Vanishes, de 1938. Ce film, c'est en effet l'histoire d'une disparition mystérieuse dans un train. La disparition de la vieille dame confronte Iris à une véritable énigme qu'elle veut résoudre. Tout se passe un peu comme dans un mauvais rêve. Elle se souvient de l'avoir vue, de lui avoir parlé, mais en même temps, la réalité semble démentir son souvenir. Qu'est-ce qui lui permettra de savoir qu'elle n'a pas rêvé ? Qu'est-ce qui prouvera qu'elle n'est pas folle, comme les voyageurs du même compartiment semblent vouloir le lui faire croire ? Iris ne se laisse pas faire et retourne au wagon-restaurant. La voilà assise à la même table où elle se tenait avec la dame, en compagnie maintenant de Gilbert, le seul voyageur du train qui la croit. Lui aussi veut savoir ce qui s'est passé. Iris est certaine que le garçon qui leur a servi le thé ne pourra pas avoir oublié la vieille dame. Mais non, rien. Rien de rien, il n'a rien vu non plus. Le mauvais rêve tourne au cauchemar. Quand soudain, par chance, que voit Iris ? Là ! Juste avant que le train ne s'enfonce dans le tunnel en faisant résonner son sifflement, elle retrouve sur la vitre une trace de la présence de Miss Fry. Oui, ça y est, elle n'est pas folle. Lorsqu'elles ont pris un thé ensemble, ici même, à cette table, Iris avait demandé à Miss Fry son nom. Mais comme le sifflement du train couvrait la voix de la vieille dame, Iris entendait mal.
Je m'appelle Fran.
Vous avez dit Fran. Pardon, je n'entends rien.
Ah. Ah. Oh. F-R-O-Y.
Pour
pour se faire comprendre, la vieille dame avait écrit avec son index sur la vitre, pleine de buée, les lettres de son nom, en majuscules. F-R-O-Y. Froy. Iris les a retrouvées à l'instant, en un éclair, là. Elles sont encore là. Elle les montre du doigt à Gilbert. Mais au moment même où il dirige son regard vers la vitre, le train s'enfonce à nouveau dans un tunnel et la buée, en disparaissant, efface le nom de Froy. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a plus rien sur la vitre du train. Pfft. Les traces sont effacées. Iris perd Miss Froy une seconde fois. Voilà ce qu'est un cauchemar. La rencontre manquée se répète et le sujet qui rêve croit un instant avoir retrouvé ce qu'il avait perdu et s'aperçoit l'instant d'après que son rêve le confronte à la perte une nouvelle fois. Le génie d'Alfred Hitchcock est d'avoir saisi que l'inconscient se déchiffre comme on déchiffre un message qui resterait là inscrit sur une vitre en buée en commémoration d'une rencontre, mais qui pourrait disparaître aussi vite qu'il est apparu, pfft, évaporé, comme les traces de Miss Froy. Voilà le phénomène Freud. Freud. F-R-E-U-D. L'inconscient comme traces qui reviennent et qui se perdent. Eh bien, nous sommes un peu dans la même position qu'Iris lorsque nous faisons un mauvais rêve. Confrontés à un redoublement de la perte, ne pouvant que subir une nouvelle fois la disparition. Mais retrouverons-nous donc jamais ce que nous avons perdu? Quelquefois, oui, en rêve. Le rêve peut nous faire revoir des êtres disparus, et nous avons le sentiment de les retrouver comme s'ils étaient vraiment là, vivants comme avant. Pourtant, nous les perdons à nouveau au réveil. Double perte. En s'intéressant aux rêves où on est en relation avec les morts, Freud a découvert que la logique du rêve avait à voir avec la perte de deux façons. La perte du récit du rêve lui-même, la confrontation avec des bribes et des morceaux qui ne font pas sens parce qu'il en manque, mais aussi la perte de ceux qui reviennent nous hanter en rêve. Il y a donc un étrange chemin qui conduit du rêve à la région des morts, du rêve au lieu des enfers. Ce n'est pas un hasard si Freud s'aperçoit de cette puissance du rêve de ressusciter les morts qu'on avait quelquefois oubliés. Freud ne cache pas dans quelles circonstances il écrit l'interprétation des rêves en 1899. Il faut mesurer ce qu'a dû être pour Freud, alors âgé de 40 ans, ce moment où en 1896, il perd son père. Freud se confie dans la préface de l'interprétation des rêves. Il ne joue pas au savant détaché qui n'éprouverait rien, qui écrirait depuis une position de surplomb et d'objectivité une théorie du rêve. Non, pas du tout. Freud est là, en tant que sujet. Il écrit l'interprétation des rêves avec ses propres rêves, avec ses cauchemars, et depuis son expérience du deuil de son père. c'est un homme en deuil qui écrit sur les rêves et leur interprétation. J'ai compris que mon ouvrage était un morceau de mon auto-analyse. Ma réaction à la mort de mon père, le drame le plus poignant d'une vie d'homme. L'ayant découverte, je ne me sentis plus capable d'effacer les traces de cette influence, écrit Freud à l'été 1908. Il a découvert que la disparition de son père avait laissé des traces en lui, au cœur de ses rêves. Chacun de nous, comme Freud, lorsque nous perdons un être cher, nous pouvons faire cette étrange expérience de revoir le disparu au cœur de la nuit, comme s'il revenait nous hanter. Est-ce rassurant ? Est-ce effrayant ? On ne saurait trop dire. Ce que l'on constate, c'est qu'ils reviennent, les morts, et parfois de très loin. On dirait même que pour l'inconscient, les morts ne sont jamais morts. Ce n'est pas exactement qu'ils nous gouvernent, mais c'est qu'ils font retour, comme si leur existence avait tellement compté qu'elle était inscrite à jamais dans notre psychisme. L'inconscient est comparé par Freud aux enfers parce que justement, il est comme ce lieu obscur où les morts sont toujours là, empiétant sur la vie. Et il est vrai que rêver d'un parent disparu, c'est faire une expérience bien singulière. Le rêveur, un peu comme Ulysse se retrouvant aux enfers et y rencontrant sa mère déjà morte, est emporté à la frontière de la vie et de la mort. Vous vous souvenez de ce que nous dit Homère, qu'Ulysse revoit sa mère comme un fantôme, un eidolon, dit-on en grec. C'est le masque mortuaire de sa mère qui lui apparaît. Eh bien, les rêves de parents morts nous font faire à chacun ce voyage comme Ulysse. L'inconscient, dont on oublie toujours le message, parce qu'on le refoule, dit Freud, l'inconscient, lui, n'oublie pas les morts. Parfois, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais c'est tout à fait frappant. On peut revoir très précisément dans un rêve le visage, le regard, le grain de peau même d'un être cher disparu il y a de nombreuses années. Comme s'il était là devant nous à nouveau, comme au temps où il était vivant. Et on pourrait dire au réveil, je ne savais pas que je pouvais encore m'en souvenir si bien. Les patients en analyse font souvent cette expérience de revoir un être disparu en rêve. Je l'ai faite aussi. Mais ces rêves qui font apparaître les morts, ceux pour qui nous avons compté. Ces rêves-là sont quelquefois au bord du cauchemar.
L'inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
Freud s'est aventuré très loin dans l'interprétation des rêves de disparus. Je voudrais vous parler d'un rêve qui est presque un cauchemar, mais en même temps pas tout à fait. Bien qu'il s'agisse d'un rêve très court et dont Freud ne parle qu'une fois, il est d'une richesse inouïe. Je voudrais plonger avec vous au cœur de ce rêve qui contient en lui-même toute l'énigme du deuil. On comprend que ce rêve n'est pu que bouleverser Freud puisqu'il est question d'un rêve fait par un fils en deuil de son père. Son père qui l'a accompagné dans la maladie jusqu'à son agonie. Ce rêve tient en une seule phrase. Le fils rêve la chose suivante. Mon père était de nouveau en vie et me parlait comme d'habitude. Mais, chose étrange, il était mort quand même et ne le savait pas. Vous voyez comme ce rêve est court et pourtant il contient déjà une énigme. Alors c'est donc un rêve où un fils revoit son père de nouveau en vie et lui parlant. Cela, on le comprend. Le silence qui suit la disparition d'un être avec qui on aimait parler est une épreuve cruelle. On peut donc croire que c'est un rêve qui réalise un désir. Oui, le désir du fils que son père soit à nouveau en vie. Le désir du fils de revoir ce père qu'il a perdu. Et même le désir du fils que ce père lui parle encore. Cela pourrait être une première interprétation. Mais Freud s'intéresse à ce qu'il y a de plus étrange dans le rêve. La voix royale est celle qui permet de découvrir ce qu'on ne savait pas, et pas seulement de redécouvrir ce qu'on savait déjà. Or, qu'il désire revoir son père, c'est-à-dire que son père lui manque, cela, le fils qui souffre de la disparition du père, il le sait très bien. Ce qui est étrange dans le récit très bref de ce rêve, c'est la seconde partie de la phrase. Il était mort quand même et il ne le savait pas. Voilà le mystère. Qu'est-ce que cela peut donc vouloir dire? Être mort sans le savoir. Vous ne trouvez pas cela absurde? Eh bien, pour Freud, c'est pourtant là qu'est le secret du rêve. Au premier abord, oui, c'est absurde. On ne peut être mort et savoir qu'on est mort. Donc le « il était mort et il ne le savait pas » est vraiment d'une étrangeté remarquable. Parce qu'on ne sait jamais qu'on est mort, ce sont toujours les autres qui le savent. Ce sont les autres qui souffrent même d'être seuls maintenant à porter le lourd fardeau de le savoir, sans pouvoir le dire à ceux qui ont disparu. Mais il y a quelque chose d'effroyable en même temps dans cette formulation. Il était mort quand même et il ne le savait pas. Cela nous renvoie à un être qui pourrait parler quand même, sans savoir qu'il est déjà mort. Un peu comme dans un film d'épouvante. Alors Freud nous emmène dans un voyage interprétatif au cœur de l'énigme du rêve et je voudrais que nous le suivions ensemble. Freud interprète d'abord ce rêve comme la réalisation d'un désir. Quel désir ? Eh bien, le désir récent que le fils a eu, alors qu'il veillait son père jusqu'à l'agonie, que les souffrances de son père soient abrégées. Ce rêve réaliserait le désir que s'est formulé le fils en secret de son père. Celui que son père meure enfin pour ne plus avoir à être le témoin en tant que fils de cette agonie effroyable du père. Le père mourant n'a pas su que le vœu de son fils était que sa vie s'achève, car ce n'était plus une vie. Là, le « il ne savait pas » trouve donc un sens. Car évidemment, le fils a pris sur lui pour ne pas montrer à son père sa douleur de fils. Pour que son père ne sache pas que lui, le fils, le voyait déjà mort alors qu'il ne l'était pas encore, qu'il était encore vivant. C'est comme si finalement, le fils rêvait de ce qu'il avait traversé au moment de l'agonie du père, sans pouvoir se le formuler. Il a vu son père s'avancer vers la mort, avoir presque déjà quitté la vie, et pourtant continuer de lui parler comme avant. Et il se disait, ce n'est déjà presque plus lui, mais un fantôme de lui-même. Il est déjà mort, mais il ne le sait pas. Mais ce n'est pas tout. Freud ne s'arrête pas là dans son interprétation. Il va encore plus loin. Il interprète ce rêve comme renvoyant à un désir plus profond, plus ancien, un désir refoulé. Lequel ? Eh bien, le désir de l'enfant, le désir du petit garçon qui refait surface là en rêve, celui du petit enfant qui voyait son père lui parler, son père comme une grande personne qu'il admirait. Ce petit enfant se disait que lorsqu'il serait grand, il en saurait plus que son père, et peut-être même qu'un jour, il serait celui qui l'emporterait sur le père, qui le dépasserait. Ce rêve, à travers cette phrase absurde « il était mort quand même et il ne le savait pas », déguiserait ce désir ancien du petit garçon, un désir revenu intact de l'enfance, le désir infantile, indestructible, que le fils retrouve au moment où il perd son père. Ce désir que le fils ne peut que se reprocher, ce désir d'être celui qui lui survivra. Parce qu'un jour, son père sera mort, et ce sera lui le fils qui restera en vie sans que son père puisse le savoir. Voilà le désir inconscient qui se manifeste dans ce rêve. Finalement, Freud veut nous dire que dans ce rêve, se noue ensemble plusieurs dimensions du temps. Le tragique du présent et le retour du désir infantile. On se reproche toujours de survivre à ce qu'on a aimé. Mais le reproche que se fait le fils de survivre au père vient aussi du désir qu'il a eu petit garçon d'être celui qui l'emportera sur lui. Il ne peut que se le reprocher, car ce désir a fini par se réaliser. Mais ne peut-on aller encore plus loin dans cette plongée au cœur de ce lieu du rêve qui devient presque un cauchemar? Freud dit que la mort d'un père est le drame le plus poignant d'une vie. Vous vous souvenez? S'il l'écrit dans sa préface, c'est peut-être aussi que cette mort confronte l'enfant à ce lieu des enfers, où plus rien ne le protège de sa propre mort. Finalement, ce mauvais rêve du fils n'est pas encore tout à fait un cauchemar, car il lui permet de se tenir dans son rêve, encore face au père, et de ne pas être abandonné seul face à la mort. Le vrai cauchemar, ce serait de s'apercevoir que dorénavant que son père est mort, le fils est lui-même confronté à sa mort future. Car la mort d'un père, c'est la disparition de cette sorte de bouclier qui nous sépare de la mort. C'est ainsi que Jacques Lacan interprète ce rêve, qu'il l'interprète au-delà de Freud, comme un rêve qui protège somme toute le fils d'une vision d'horreur, celle qui l'amènerait à apercevoir qu'il est seul, dorénavant, face au destin, et que plus rien ni personne ne peut le protéger. Mais j'ai envie d'aller encore un peu plus loin. Ce rêve, si court, si curieux et si paradigmatique, nous éclaire tous et chacun sur l'expérience du deuil et celle de ce que le parent disparu nous a laissé. Voilà ce qui m'apparaît en revenant sur ce rêve avec vous. Si le père parlait comme avant, dans le rêve, mais était mort sans le savoir, n'est-ce pas aussi que la disparition d'un parent nous laisse chacun seul face aux paroles qui restent, face à l'obscur héritage de ce qui a été dit de nous par ceux qui nous ont précédés. Voilà aussi ce qui me revient dans mes rêves, mes cauchemars, des paroles que je n'entends plus, des mots que je ne comprends pas, des discours qui se sont tenus et qui ont parlé de moi sans que je mesure l'impact qu'ils ont eu sur mon existence. Le deuil et la perte ne nous confrontent pas seulement au silence, mais nous confrontent aux malentendus qui restent. Nous, les vivants, nous nous retrouvons plus que jamais lorsque nous sommes en deuil, face à ce que Jacques Lacan appelait le bafouillage de nos ascendants. Le bafouillage qui fait que, dans nos rêves, nos ascendants, ceux qui nous ont précédés, parlent comme avant, mais que l'on n'entend pas ce qu'ils disent, on ne le comprend pas. Voilà ce à quoi peut nous confronter le rêve des disparus. À ce malentendu entre nous, à ce qui est resté entre les vivants et les morts, à l'état de bafouillage et n'a pu se dire. Le rêve des disparus nous confronte au fait de ne pas entendre ce qu'ils pourraient nous dire encore, au fait de devoir interpréter leur silence, leurs désirs cachés, leurs secrets emportés dans la tombe. S'arracher au deuil. N'est-ce pas alors pouvoir interpréter ce malentendu, s'interroger sur le sens de ce que nos parents nous ont laissé sans le savoir eux-mêmes et s'approcher pas à pas du malentendu dont nous sommes chacun issus. Malentendu qui dit peut-être notre être le plus intime et le plus singulier. Ici s'achève ce second volet sur les rêves.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Clotilde Le Guil.
Restez à l'écoute. Juste après le disque, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté cet épisode en podcast, disponible sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr. Sachez que vous pouvez aussi laisser vos questions sur notre répondeur au 01 56 40 64 04.
This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream never thought you were leaving. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish we were
à vous maintenant de poser vos questions et je vous écoute.
Bonjour Clotilde Le Guil, je suis Magali. J'ai écouté avec beaucoup d'attention cette émission. Il me venait en tête lorsque Freud écrit cette phrase « Il était mort quand même et il ne le savait pas ». Et à un moment donné, vous dites « Il était mort sans le savoir ». Et je me disais que peut-être Freud traversait aussi grande dépression, en tous les cas une période de dépression avec la mort de son père. Et ça me faisait penser à un parallèle avec la dépression, où on est un peu mort, hein, sans le savoir aussi, animé juste par manger, dormir, sourire en même temps que les autres, mais on ne le ressent rien. Voilà, c'était un peu ma petite réflexion qui me venait aussi sur cette dimension-là de ce rêve. Et cette phrase, il était mort quand même et il ne le savait pas. Alors bien sûr qu'il s'agit de son père, bien sûr qu'il s'agit de lui, tout ce que vous avez dit. En tous les cas, vraiment merci. Merci encore et à bientôt.
Magali, c'est moi qui vous remercie pour votre question parce qu'elle me donne l'occasion de préciser un point qui est très important dans ce rêve du père mort, hein, qui contient cette formule « il était mort quand même, mais il ne le savait pas ». En effet, ce n'est pas seulement le père qui était mort sans le savoir dans ce rêve, mais... plus profondément, c'est le fils lui-même qui finalement est confronté à sa propre mort sans le savoir du fait de la disparition du père. C'est ce que montre Lacan en disant finalement que ce rêve n'est pas tout à fait un cauchemar parce que ce rêve le montre encore le fils en présence du père et lui cache en quelque sorte à travers ce scénario qui le met en présence du père, lui cache une vérité dernière qui est la confrontation avec sa propre mort. Donc, il était mort, mais il ne le savait pas, est aussi une phrase qu'on peut conjuguer au futur, c'est-à-dire que l'événement de la mort du père confronte aussi le fils sans qu'il le sache au moment où lui sera mort sans le savoir. Donc, la remarque que vous faites est très profonde. En ce qui concerne Freud, Freud dit dans sa préface que l'événement de la perte d'un père est un des événements les plus poignants d'une vie. Alors, comment est-ce que Freud a répondu au fond à cette épreuve? Eh bien, justement, Freud y a répondu en faisant part d'un désir inouï, qui a été ce désir de découvrir le sens caché des rêves. Et donc, comment, au fond, Freud a répondu à ce moment de secousse existentielle qu'est la perte d'un père, qu'est cette épreuve du deuil d'un père, eh bien, il y a répondu en franchissant l'angoisse. Et vous savez, Lacan disait que le seul remède à l'angoisse, c'est le désir, que le désir est un remède à l'angoisse. Et là, on voit au fond que Freud, confronté à ce moment de détresse qu'est la perte, enfin, auquel nous confronte la perte d'un père, eh bien, Freud va s'appuyer sur son désir comme remède à l'angoisse.
Après la mort de mon père et de nombreuses nuits, j'ai rêvé de lui. C'était tellement frais, en fait, que le rêve avait ceci de génial que je le regardais tout de suite dans mon rêve comme un double rêve en sachant que je rêvais. Et donc, finalement, que j'avais une chance incroyable de profiter de lui parce qu'il était à la fois vivant et en même temps, c'était incroyable qu'il soit vivant parce que je savais au fond de moi qu'il était mort dans le rêve même. C'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois, j'en ai gardé un grand et bon souvenir. C'est arrivé aussi, parce que ma mère est décédée à peu près au même moment, avec ma mère, mais moins souvent, et avec elle, il y a eu aussi un certain nombre de fois où c'était plus dur, parce qu'à nouveau, je savais que j'étais là, qu'elle était là, et qu'elle n'était pas là, et j'avais envie de profiter d'elle, et malheureusement, on s'engueulait, comme ça l'est déjà arrivé, même loin, sur l'adolescence. Et en me réveillant, j'en étais super peiné, parce que je me disais, ce n'est qu'un rêve, mais c'était l'opportunité de la voir et de revivre avec elle, et qu'il y avait dans cette le fait de revivre, il y avait aussi la dispute, voire en premier. Voilà. Mais je retiens surtout ces événements avec mon père qui étaient juste incroyables, et qui fait que dans les rêves que j'ai faits, qui sont estompés avec le temps, j'en garde un très bon souvenir.
Je vous remercie pour cette question. Je ne vais pas interpréter votre rêve, puisque ce que Freud a tout de suite découvert, c'est que l'interprétation du rêve ne pouvait se faire qu'à partir des associations d'idées du rêveur, du patient, et donc toujours relativement à ce qui lui revient de son histoire secrète, de son histoire inconsciente, et de ce qu'il y a au fond de plus intime dans ce qu'il a vécu.
Mais en revanche, je vais répondre à votre témoignage à partir de ce qu'il est clair de certains points qui ont été apportés par Freud et par Lacan sur le rêve. Ce que je trouve très intéressant, c'est d'abord cette question du double rêve. Hein, vous faites part du fait que dans un rêve, on peut à la fois s'apercevoir qu'on rêve et en même temps continuer de rêver quand même. Hein, il y a quelque chose qui peut nous confronter à une forme de dédoublement entre l'état de rêve et l'état d'éveil. Hein. Et bien ça, c'est un point qui a beaucoup intéressé Lacan. Et pourquoi ça a beaucoup intéressé Lacan? Parce qu'il ce point-là montre justement en quel sens nous sommes divisés entre l'inconscient et la conscience, entre le rêve et la veille, et en quel sens nous pouvons rencontrer cet état au cœur même du rêve. Et Lacan aimait bien citer un rêve qui est raconté par Chuang Tzu. C'est un très joli rêve, très court, où Chuang Tzu rêve qu'il est un papillon. Il rêve qu'il voit un papillon. Et au réveil, il ne sait plus si ce n'est pas le papillon qui a rêvé qu'il voyait Chuang Tzu. Donc au fond, il ne sait plus si lui-même est une créature du rêve du papillon ou si c'est lui qui a rêvé du papillon. Et c'est un témoignage qui est très joli sur cette division qu'on peut rencontrer au cœur même du rêve et qui nous confronte à la fois à ce qu'on sait et en même temps ce qu'on ne sait plus sur notre identité. Et dans ce que vous rapportez, je retiendrai donc ces deux termes que vous avez employés, la chance hein, et la malchance. Hein, et le fait que, au fond, le rêve réintroduit cette question de l'occasion à saisir, cette question de la chance de la rencontre, la chance de la retrouvaille, et en même temps aussi la question de la rencontre manquée, de l'occasion manquée. Et en fait, dans l'expérience de l'analyse, eh bien, il est question de pouvoir saisir enfin l'occasion quand elle se présente, en s'interrogeant hein, sur ce qui a été pour chacun l'occasion manquée.
Nous poursuivons l'écoute de vos questions.
Bonjour, c'est Florence. Mon papa est mort il y a 10 ans et en rêve, je le vois parfois, je l'entends, je sens son odeur jusqu'au grain de la peau, comme vous disiez, je peux tout sentir. Et j'ai fait un rêve, je voulais savoir sa signification. Mon papa, je le voyais sortir de l'ascenseur, me dire au revoir et tout à coup, moi, je devenais très grande et lui tout petit. L'ascenseur s'ouvrait, je voyais mon papa. Et je disais « Oh, mon papa !» Et lui disait « Mon titi !» parce qu'il m'appelait « Mon titi !» Et il devenait tout petit et moi très grande. Alors voilà, est-ce que ça a rapport avec la disparition? Pourquoi je deviens grande? Est-ce qu'il faut que je le devienne? J'ai encore ma maman, hein, mais je me sens orpheline. Voilà, merci pour vos émissions qui sont absolument extraordinaires. Au revoir.
Merci beaucoup, Florence, pour la transmission de ce rêve que vous énoncez vous-même très bien et au fond qui témoigne presque d'une interprétation faite par le rêve lui-même. Alors comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas vous interpréter votre rêve puisque j'en serais bien incapable et que cette interprétation ne peut reposer que sur vos associations à vous et votre histoire, mais je dirais deux choses. Que ce rêve éclaire, à la fin de l'interprétation des rêves, Freud termine sur ce qu'il appelle le désir infantile indestructible. Donc ce désir infantile indestructible renvoie chacun à un désir qui est très singulier, mais qui a à voir avec son enfance, avec la façon dont il a rencontré aussi le désir de ses parents, avec ce que ses parents ont pu désirer pour lui, hein, ce que Lacan appelle aussi le désir de l'autre. Et au fond, pour chacun de nous, il y a une marque qui vient de la façon dont nous avons été désirés par l'autre. Hein. Et cette marque, elle est là depuis l'enfance, et ce que Freud appelle le désir infantile indestructible, eh bien, peut devenir un point d'appui, hein, pour l'existence. Et c'est ce qu'on découvre dans l'expérience de l'analyse.
Bonjour Caroline, j'ai perdu ma maman très récemment à la suite d'une longue maladie, après avoir perdu mon papa en fait il y a 4 ans, de façon un peu plus soudaine. Et ce qui est très étrange, c'est qu'en fait mes rêves sont maintenant complètement peuplés de discussions avec mon père, dont je me souviens pas exactement les détails, mais quand je me réveille, je me rends compte que je lui ai parlé dans mes rêves, mais pas de ma maman de qui j'étais très très proche. C'est comme si ce départ de ma maman me ramenait en fait 4 ans en arrière. Est-ce qu'il y a une signification particulière dans ces discussions avec un être aimé, mais que j'ai perdu il y a plus longtemps? Merci bien.
Caroline, la signification particulière, seule vous pouvez la découvrir. Mais ce que je peux souligner, relever dans ce que vous apportez, c'est cette question de la discussion avec le disparu qui se poursuit en rêve. Au fond, pour l'inconscient, la discussion avec le disparu ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on ne continue pas dans ses rêves à échanger avec lui, ou au moins à attendre une parole de lui. Et Freud interprète ce fait de structure d'une façon qui est très éclairante. Il dit qu'il y a un certain nombre de rêves dans les cas de deuil qui renvoient à une question que le rêveur continue de se poser, bien qu'il ne puisse plus la poser à l'être perdu. Cette question que le rêveur continue à se poser, c'est « mais qu'est-ce qu'il en aurait pensé ?» De ce que je vis maintenant, de ce qui m'arrive, de cette vie qui se poursuit. Hein. Qu'est-ce que mon père en aurait dit ? Qu'est-ce qu'il m'aurait dit ? Et donc, c'est une question qui revient et qui montre cette continuité de ce que Lacan appelait la chaîne signifiante. Quelque chose se poursuit, hein, du dialogue qui a commencé un jour et qui ne s'arrête pas, au fond, grâce au rêve. Je vous remercie pour vos questions. Je précise que 2 questions portant sur le deuil d'un enfant trouveront des réponses dans ce que j'aborderai lors du prochain épisode, à partir d'un rêve très important qui est rapporté par Freud dans l'interprétation des rêves. Et je remercie l'équipe, Alexandre Chenet à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui relève vos questions et Audrey Ripouille à la réalisation. La semaine prochaine, vous retrouverez Caroline Eliachef. Vous pouvez d'ores et déjà l'écouter en podcast sur notre page L'Inconscient et lui laisser vos questions par note vocale ou au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 5 mars pour poursuivre notre voyage au cœur des rêves et des cauchemars.